Alors, on est à la 24e des leçons de ténèbres. Déjà. Et on a 10 minutes d'avance. J'ai donné comme, j'ai intitulé ça, le pardon et la promesse. Vous voyez, donc on tisse vraiment les mêmes thèmes. Mais l'espérance. Alors là, c'est un peu curieux parce qu'avant... Le mai, c'était la dévastation du monde, c'était la guerre, c'était des choses, la solitude, etc., des choses terribles. Et là, l'espérance. Pourquoi est-ce que je mets l'espérance comme un problème? C'est très classique, hein, comme démarche. Justement, penser l'espérance, c'est peut-être ce qui est le plus obscur, le plus difficile. La timide espérance, comme disait Peggy, je crois. Nietzsche dit que l'espérance en vérité c'est le plus mauvais des maux parce qu'il prolonge le tourment de l'homme. On est dans le malheur mais on espère, donc c'est vraiment le pire. Et donc là on pense à la boîte de Pandore, à la jarre de Pandore ouverte par Pandore, donc tous les maux s'envolent et il reste dedans l'espérance. Alors du coup il y a toute une ambiguïté de lecture, il y a eu beaucoup de débats. Il y a plusieurs versions d'ailleurs du mythe. Est-ce que ce qui reste, est-ce que l'espérance, est-ce que c'est un bienfait ou est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que justement on l'a gardé, tous les maux sont échappés, mais on a gardé un mal, ou est-ce que justement on a gardé un bien? Est-ce qu'elle est captive ou est-ce que donc on ne peut pas y accéder parce qu'elle est captive dans la jarre, ou est-ce ça? Enfin bon. Cette question-là, donc, vous voyez, Nietzsche fait une interprétation pessimiste. Pierre Bayle, justement, que j'aime beaucoup, vous savez, Pierre Bayle, il dit un peu le même genre de choses. Il dit le problème dans les débats avec le manichéisme, hein, bon, il dit le problème du monde, de la vie, c'est pas le mal, c'est le bien qui est mêlé. Ce qui fait qu'on n'est jamais sûr du mal. Et que justement, il y a encore du bien. C'était Wilfred Monod, pasteur Monod, dans un gros livre intitulé « Le problème du bien ». Ricoeur a écrit un petit livre intitulé « Le mal ». Et Wilfred Monod avait écrit un gros livre sur le bien, mais comme problème, le problème du bien. Parce qu'il disait, en fait, il avait beaucoup lu Schopenhauer, et puis il écrit ça juste à la fin de la Première Guerre mondiale, il a perdu des... Et il dit, pourtant on se réjouit des naissances. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit des naissances? C'est-à-dire que quelque part encore on croit au bien, quoi. On croit au bonheur possible, on croit à la promesse. Chaque naissance est une promesse. Ça y est, on y croit. À chaque nouvelle naissance, il y a une promesse qui est lancée et on y croit. Justement, le problème le plus difficile. C'est pas le problème du mal irréparable, c'est bien le problème du bien. C'est l'espérance que nous serons un jour délivrés du mal, parce que le mal est fini, il y a une finitude du mal. Les maux, finalement, un jour se terminent, après la pluie de beau temps. Bon. Mais en même temps, du même coup, il y a l'anxiété que nous soyons un jour séparés du bon, de ce que nous aimons. C'était Plotin qui disait le mal n'est que la finitude du bon, les choses heureuses se terminent. Dans la vie humaine, il n'y a pas de bonheur éternel. Les bons ne sont. Il y a une fragilité du bon, en quelque sorte. Bon. Bon, voilà un peu l'ambiance générale de la question. Alors, sur le thème de l'espérance à proprement parler, au-delà de la boîte de Pandore, là, on a des réflexions. Déjà dans une ligne qui est celle plutôt de Kant, encore une fois. Kant dit finalement pourquoi est-ce que nous faisons le bien? Nous faisons le bien, le postulat de la raison pratique, de la raison du devoir, hein, de l'impératif catégorique, c'est l'immortalité de l'âme. C'est que nous sommes un sujet, en quelque sorte, qui est indépendant de toutes les récompenses et punitions physiques, en quelque sorte. On est libre, on est des sujets libres. Bon, mais l'immortalité de l'âme, ça peut être un peu équivoque, parce que ça peut vouloir dire, quelque part, je fais le bien, mais parce que il y a une immortalité de l'âme, donc quelque part, j'aurai une récompense. n'était pas du tout le sens chez Kant. Hein, bon. Donc après, il y revient et il développe une autre. Il dit on fait le bien dans l'espoir que les générations qu'il y aura des générations futures. Ça, on fait le bien parce que c'est le signe qu'il y a une amélioration de l'humanité, qu'il y a un progrès de l'humanité. Kant est dans une perspective plutôt optimiste, si vous voulez. Et donc, le bien, c'est pour les générations suivantes, même fussent-elles lointaines. Et alors, il y a un grand philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui dit, oui, mais justement, cette conception, si l'éthique est portée par le rapport aux générations suivantes, eh bien, justement, nous sommes responsables, non plus seulement du passé, de ce que nous avons fait, mais nous sommes responsables pour les générations suivantes, devant les générations suivantes. Des conséquences de notre agir actuel, de nos choix actuels, sur les générations suivantes. C'est ce que son livre s'intitule « Le principe responsabilité ». Le principe responsabilité s'opposait, d'une certaine manière, à un autre grand ouvrage d'un intellectuel qui, lui, d'un philosophe qui, lui, était plutôt un continuateur de Marx et de Hegel, qui s'appelle Ernst Bloch, qui avait écrit « Le principe espérance ». Le principe espérance, d'ailleurs, Jürgen Moltmann, que vous connaissez peut-être ceux qui sont plutôt dans le monde de la théologie, avait repris, mais sur le mode de la théologie chrétienne, l'idée d'une théologie de l'espérance, qui lit d'abord à travers Ernst Bloch. Ernst Bloch, c'est vraiment... c'est pas tellement faire que le monde soit possible après nous, pour les générations suivantes. C'est l'idée que le monde est comme guidé, téléguidé, par une sorte de téléologie, au sens hegelien, dans laquelle c'est l'après qui explique l'avant. C'est pas le avant qui va expliquer l'après. L'après n'est pas que la conséquence de l'avant. C'est l'après, c'est la finalité qui aspire vers elle, l'histoire. Et donc, l'espérance a une fonction utopique, de moteur de l'histoire, d'une certaine manière. Alors ça, c'est des figures qui ont été développées, elles aussi, longuement, et qui sont intéressantes. De toute façon, avec l'espérance, on est dans les questions, dans les figures du temps. L'espérance, avec cette dernière veille, nous rencontrons le pardon, la promesse. L'éthique est en rapport avec, se trouve face au temps. Face au temps avec justement la déception, avec le mal, est-ce que le mal aura une fin, est-ce qu'on peut espérer, que pouvons-nous espérer, demandait Kant, etc. Et j'irai dans le temps, nous sommes écrasés entre l'irréversible, l'irréparable, et puis l'imprévisible, ce à quoi on n'est jamais préparé, parce que c'est imprévu, c'est l'inattendu, mais dans un sens... éventuellement catastrophique. J'ai mal mis mes notes là. Je m'embrouille dans mes notes. Je reviens un instant sur avant parce que c'est intéressant de dire que c'est l'après qui explique et qui attire l'avant avec l'idée que la vie, que l'esprit, ça, est comme une négantropie. C'est le contraire de l'entropie. On sort, on émerge peu à peu de l'entropie. Alors qu'on pourrait avoir une conception dans laquelle le temps n'est qu'une décadence. Le temps, peu à peu, ne fait que ruiner, hein, que défaire. Ce sont deux conceptions du temps très profondément opposées. Et donc là, il y a une négantropie. On peut aussi imaginer que c'est l'avenir qui nous délivre du présent. L'avenir, c'est comme l'autre qui arrive, qui vient, qui survient, qui nous délivre du passé, du présent. Oui, j'ai parlé de l'irréversible et de l'imprévisible. Je vais revenir avec Hannah Arendt, mais je termine sur l'espérance avec Ricoeur. Ricoeur, il parle de l'initiative et il dit si le monde est la totalité de ce qui est le cas, ce qui est, eh bien agir, c'est faire en sorte que le monde ne soit pas fini. Et donc l'espérance fait partie de l'agir. C'est l'espérance qui soulève la possibilité d'agir, de faire en sorte que le monde n'est pas fini, que le monde n'est pas clos. Il y a autre chose. Hein, bon. Dans l'être, il y a du peut-être. Et c'est l'espérance à avoir avec ce peut-être que nous faisons surgir. En quelque sorte. Et donc pour Ricoeur, l'espérance n'est pas du tout une fuite. Il y a eu des grands débats avec d'autres auteurs. Une fuite, c'est pas l'espérance n'est pas un rapport à l'au-delà, c'est une limite qui nous renvoie vers l'en-deçà, vers cette terre. Je n'aurais pas été d'accord tellement avec ce que disait Izzy Morgenstern au début de la soirée. Je pense que dire que la vie est au-delà, résumer le christianisme dans ce sens-là, je pense que c'est un peu simple. Je pense qu'il y a au contraire une profonde conversion à l'en-deçà. Quand je dis ça, chez Calvin qui refuse de commenter l'Apocalypse, par exemple, totalement, mais en disant non, ça appartient à Dieu. Nous, ce qui nous appartient, c'est ce monde. C'est ici que nous devons être mutuellement témoins, en quelque sorte. Alors, je reviens à mon irréversible et à mon irréparable, c'est à ce moment-là que j'aurais dû le dire, parce que, comme le dit Anna Arendt, le remède à l'irréparable, à l'irréversible, c'est le pardon. Le remède, ou plutôt, je dirais, la riposte. Ce serait une figure du temps fondamentale, le pardon. Comment est-ce qu'on sort de la loi de l'échange, de la vengeance, des interminables représailles, et la vengeance qui n'arrête pas, la suite des vengeances? Je ne sais pas si vous connaissez l'Orestie d'Eschyle, dans lequel il y a le meurtre d'Agamemnon, puis après il y a le meurtre de Clytemnestre, puis après il y a donc les furies qui continuent à courir derrière Oreste. Et donc, est-ce qu'Orestes, à son tour, va mourir? Parce que justement, c'est la vengeance, c'est les furies, c'est les érinies, c'est les puissances de la vengeance qui sont déchaînées. Alors, comment est-ce qu'on va sortir du cercle terrible, terrible du tragique et donc de la vengeance, des représailles? Toutes les guerres aujourd'hui montrent bien cette capacité que nous avons à en rajouter dans les échanges du mal, on va dire. Et là, on est dans du méta-historique, si j'ose dire, dans du méta-politique avec la tragédie grecque. C'est comme un théâtre qui est au bord de la cité et qui a pour fonction d'apprivoiser les furies barbares. Les barbares, le mot d'ailleurs, mais les furies de la destruction, les vraies, les furies, hein, les érinies, pour les convertir dans les euménides, les bienveillantes, mais même, je dirais simplement, pour les convertir dans des passions démocratiques, pour les apprivoiser. C'est le sens du rituel. C'est tout à fait ce qui se passe dans les tragédies grecques à avoir avec les rituels d'apaisement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont les mêmes divinités, qui sont les divinités de la fureur terrible et les divinités bienveillantes de la bonté. Les mêmes qui sont les pourvoyeuses de la mort et qui sont aussi les pourvoyeuses de la vie, de la fécondité des bourgeons, des femmes enceintes, etc. C'est les mêmes. Les érinies sont les euménides. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas réduire, je dirais, de nous réduire anthropologiquement à être juste un animal qui ne court que derrière ses simples intérêts. Lorsque Bayle, tout à l'heure, je citais, disait l'homme est capable de se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi, c'est ça la fureur, être capable de se détruire pour faire du mal à son ennemi, eh bien, ça montre aussi une capacité de don de soi, d'abnégation. Et donc, c'est la même énergie qui peut devenir l'énergie du sacrifice de soi dans la bonté, dans le dévouement, etc., etc. Donc voilà, ça c'est ce travail au bord de l'espace politique, ce travail du tragique que Nicole Leroux, dans un magnifique livre sur la tragédie grecque, appelait la voix en deuil, la voix endeuillée. Bon. On rentre dans le pardon à travers le tragique en mesurant, c'est toujours, hein, elle dit, j'ai oublié l'interjection en grec, aïe, je crois, qui veut dire, c'est toujours le mal, et c'est encore qui recommence. On n'en sortira pas, etc. Et c'est les voix de ces femmes en deuil, de ces femmes en noir, au bord de la cité, ça c'est des voix du tragique, et qui rappellent, on va dire, le tragique. Alors, de ce pardon, on peut dire, anthropologique, fondamental, c'est certain qu'il est vraiment très important. Il y a un pardon qui prend des formes diverses selon les cultures. Moi, je crois qu'il existe complètement en islam, il existe dans le judaïsme, mais sous des formes différentes et dans des syntaxes différentes. Comme tu le disais à l'instant, dans la syntaxe protestante, on commence par la grâce. C'est quand même très particulier. En général, dans le monde catholique, par exemple, globalement, dans la théologie catholique, on monte peu à peu vers la grâce. La grâce vient au bout, en haut de la longue pyramide, dans l'échelle dans laquelle on monte vers le. Donc là, c'est vraiment des syntaxes différentes. Et c'est intéressant parce que du coup, quand on parle du pardon, on ne parle pas de la même chose. Et si entre les juifs et les musulmans, entre les chrétiens, on ne parle pas de la même chose, au moment où on se pardonne, c'est le pire. C'est le moment où on peut le plus éclater en furie, justement, parce qu'on s'est pas du tout compris. Donc il faut de la prudence quand on manipule l'anthropologie du pardon, parce que c'est compliqué. Et bien sûr, il y a aussi des motifs, des ressorts psychiques, psychologiques, au sens d'une manière Freud, a beaucoup travaillé sur le pardon, d'une certaine manière. D'ailleurs, Nietzsche aussi, par rapport au ressentiment, etc. Alors ça, c'est un premier type de pardon. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un pardon, moi j'ai beaucoup insisté tout au long de ce que j'ai essayé de faire, sur le fait qu'il y a aussi un pardon moral, simplement, un pardon conditionnel. Le pardon, ce n'est pas un truc magique qui tombe comme ça. Non, il y a aussi un pardon ordinaire, on peut dire de tous les jours, pas dans des situations absolument terrifiantes, mais qui est un pardon qui a des conditions pragmatiques. C'est une parole qui est valable si on a réuni un certain nombre de conditions. Enfin, au moins, on a essayé de les réunir. On ne peut pas, par exemple, pardonner à la place de quelqu'un d'autre. Pas possible. Ça, c'est un des grands problèmes de l'Église romaine, c'est d'adjuger le monopole du pardon, et donc de croire qu'il y a des gens qui peuvent pardonner à la place des autres. Ça pose d'énormes problèmes moraux, évidemment. Bon. On ne peut pas pardonner, on peut dire, ça c'est Yankelevitch qui a beaucoup insisté là-dessus, à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le pardon à ce moment-là, c'est quelque chose pour soi-même, mais ce n'est pas le pardon. Voilà. Mais là, je ne parle pas du pardon en général. Vous voyez, j'essaye de distinguer plusieurs significations du pardon, et là, dans le pardon moral, le pardon à condition de justice, d'une certaine manière. Eh bien, non, il y a des formes de règles. On ne peut pas se pardonner à soi-même. On ne peut pas pardonner ce qu'on ne peut pas punir. Enfin bon, un certain nombre de règles pragmatiques. Je ne vais pas les développer davantage. Ça, c'est le pardon ordinaire. Et, voilà. Et puis, il y a peut-être un pardon inconditionnel, un pardon théologique, on pourrait dire. Pardon impossible, mais pourtant, il y arrive. Voilà, on pourrait dire pourquoi. Jacques Derrida s'est beaucoup intéressé à ce pardon-là. Il me semble ce pardon-là être très dostoïevskien, d'une certaine manière très chrétien, et voilà, donc je crois que c'est très important de le penser, mais de le penser comme une des figures parmi d'autres. Vous voyez, il y a un pardon nécessaire, anthropologique, toute culture, toute société a besoin d'un mécanisme par lequel on arrête l'échange des mots pour restaurer la capacité d'échange des biens. Il y a un pardon moral, éthique, conditionnel, et puis un pardon inconditionnel, voilà, qui arrive. Et j'ai déjà dit pas mal de choses. Alors, je reviens sur Arendt. Donc, on a, face à l'irréversible, on a la faculté de pardonner. Elle écrit « Si nous n'étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Nous resterions à jamais victimes de ses conséquences, pareil à l'apprenti sorcier qui, faute de formule magique, ne pouvait briser le charme. » Et alors, cette capacité, cette faculté que nous avons de briser le charme, de rompre avec la logique de l'irréversible, eh bien, cette faculté-là, celui qui a le plus travaillé et exploré cette faculté humaine que nous avons tous, que tous les humains ont, d'après Anna Arendt, c'est Jésus. Elle dit, c'est Jésus de Nazareth qui découvrit le rôle du pardon dans le domaine des affaires humaines. Et il dit, c'est pas du tout un truc religieux, c'est un truc politique presque. Et alors, il continue en disant, l'homme dans l'évangile n'est pas censé pardonner parce que Dieu pardonne. Il n'a pas à faire de même. C'est le contraire. Mais si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur, alors Dieu vous traitera de même. Et elle ajoute en note, dans tous ces exemples, le pouvoir de pardonner est avant tout un pouvoir humain. Dieu nous remet nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Là, c'est une sorte d'inversion par rapport à la théologie, qu'elle soit augustinienne en général, qu'elle soit catholique ou protestante, dans laquelle c'est toujours Dieu qui commence. Mais du coup, si c'est toujours Dieu qui commence, on reste toujours captif d'un schéma vertical, régalien, dans lequel Dieu, puis après le roi, puis le prêtre, etc. Vous voyez, il y a une conception. Non, ce que dit Jésus, c'est vous pouvez, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel, mais cette faculté que nous avons de délier et de lier, tous les humains l'ont. C'est ça, C'est ça son annonce, son message. Donc voilà, le pouvoir de pardonner appartient à tous. C'est un pouvoir extrêmement politique, parce que c'est justement le pouvoir de la déliaison, de se dénier mutuellement de ce qu'on a fait, et pour prendre un nouveau départ, pour commencer du neuf, pour innover. Et c'est là qu'on passe au deuxième temps, le temps de la promesse. Il faut pouvoir pardonner pour pouvoir promettre, ça va ensemble. Il faut pouvoir séparer l'agent de son action pour, en comptant sur la capacité, on peut dire, de régénération du soi, de libération en quelque sorte du soi. Hein, tu vaux mieux que tes actes, le sujet est toujours autre chose, on ne peut pas le ramener à la somme de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit, il est encore toujours autre chose. Et Ricoeur a cette formule magnifique, il dit: pour se lier par la promesse, le sujet de l'action devait aussi pouvoir se délier par le pardon. Donc on pourrait dire là, ce schéma-là, c'est un schéma très, à mon avis, très politique. C'est un schéma aussi dans les relations. Il faut pouvoir se lier dans les libres liens, il faut pouvoir se délier. Mais en politique, il faut pouvoir. C'est ça l'idée de démocratie. Il faut pouvoir rompre le pacte pour passer un nouveau contrat social, un nouveau pacte social. Mais il faut que cette capacité de désobéissance. Il faut pouvoir désobéir pour pouvoir obéir. D'une certaine manière, c'est tout le sens de l'histoire d'Adam et Ève. S'ils n'avaient pas pu désobéir, ben en fait, ils n'étaient que des pantins, en quelque sorte. Voilà. La désobéissance est un acte fondamental. La rupture, on va dire, du pacte. Et alors, du coup, la promesse, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas... je ne sais pas comment dire, c'est un archipel, un petit archipel fragile. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit, je n'ai rien à rajouter, ça dépend tellement de l'autre. Hein. Ricoeur disait: qui suis-je, moi, si versatile, pour que néanmoins tu comptes sur moi? Une magnifique formule, parce que qui suis-je? C'est la question, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis, moi? Qui suis-je, moi, si versatile? Et justement, dans le temps, comment est-ce que je me tiens? Comment est-ce que j'ai ma cohérence? Mon identité narrative, elle est fragile, elle est pleine de trous, elle est pleine de lacunes, et néanmoins tu comptes sur moi. Donc c'est de l'extérieur. Donc c'est un petit archipel fragile dans un océan d'incertitudes, d'imprévisibles. Il ne s'agit pas de bétonner, les promesses ne sont pas là, ce n'est pas le cinquième plan qui va bétonner tout le futur. Le capitalisme, on va dire, l'argent, c'est un moyen de nous prémunir de tout imprévisible. Quand on a beaucoup d'argent, il n'y a plus rien d'imprévisible, parce qu'on est protégé de tous les imprévus par l'argent. C'est une manière de nous protéger. Mais non, justement, la promesse, c'est le contraire de ça. On se déprotège et on accepte de tenir sur quelques paroles. De ne tenir que par quelques paroles qu'on reçoit et qui sont fragiles. Je termine par le thème de la sagesse pratique face à tout ce tragique de la vie, de l'histoire, du monde. La sagesse pratique, elle peut pointer s'il y a de comique dans l'histoire, montrer, voilà, relativiser le différent, le conflit, on va dire, tragique, Antigone et Créon, etc. Bon, et ça, le geste, là, c'est le geste de la diminution. Il y a un temps pour grandir, pour augmenter, et puis un temps pour diminuer, pour dire, attendez, doucement, on rabaisse le niveau en quelque sorte du discours. On ne cherche plus à généraliser. Les grands discours généralisent. Bon, revenir à des choses plus concrètes, plus expérientielles, plus modestes, qui seront parfois d'ailleurs de l'ordre du compromis, des singularités. Bon. Et puis, il y a aussi une autre figure de la sagesse qui est de traiter d'autres dans la sollicitude, je dirais, en refusant, en cessant de comparer. En cessant de mesurer, on a affaire à des singularités incomparables et donc une sorte de dévouement aux singularités. Dans le soin tout à l'heure, j'ai entendu des choses comme cela, et c'est une forme aussi d'effacement de compassion, d'une certaine manière, d'identité de tout en tous, et d'une certaine manière d'effacement de soi, du soi individuel dans cette compassion. Je vais terminer en lisant quelques textes qui disait ça, je pense à des textes d'abord de Rilke, qui disait Et on est au matin, c'est l'aube, donc être ici est une splendeur. C'est la septième des élégies à Duino. Être ici est une splendeur. Vous le saviez, oui, même vous, fille apparemment privée de tout, qui pourrissez et noyez au fond des pires rues des villes ou livrée à la déchéance. Oui, car chacune eut son heure, peut-être moins, quelque chose entre deux instants, à peine mesurable à l'échelle du temps où elle exista, pleinement, les veines pleines d'existence. Être ici est une splendeur, en dépit de tout ça. C'est de retour, Orphée, c'est du retour des enfers qu'il peut dire être ici est une splendeur. C'est de retour du néant. Voilà. Peut-être que les figures de la sagesse pratique et de l'espérance ont à voir avec ça, c'est de l'autre côté de cette nuit. Je veux lire aussi Kierkegaard, puisqu'on je parlais de la comparaison. Sur les lys des champs et les oiseaux du ciel, il écrit « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous vêtirez, etc. » Oui, non, non, je peux vous lire tout Matthieu 6, enfin, bon, « Ne valez-vous pas, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent pas, etc. Ne... » Et qui d'entre vous peut par son inquiétude prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs. Comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'entre eux. Et si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi, etc. Donc ne vous souciez pas, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Bon, donc ça vraiment, on est dans le genre sapiential ici, qu'on retrouve dans d'autres, aussi dans l'Ancien Testament souvent. C'est vraiment, c'est un genre qui existe dans le monde grec, dans toutes les cultures, le genre sapiential. Et là, c'est typique de ce genre sapiential. C'est un peu, il en faut peu pour être heureux, on pourrait dire malou. Hein. Bon, c'est quand même un peu plus profond que ça. Mais... Alors, justement, comment il le commente, Kierkegaard, il dit « C'est ainsi que l'Évangile, plein de compassion, adresse le soucieux aux lys des champs et aux oiseaux du ciel, près de ces maîtres peu coûteux, qu'on ne paie ni en argent ni en humiliation. Nulle méprise n'est possible, car ils se taisent par sollicitude envers l'affligé. Parce que tout malentendu résulte de la parole, en ce sens que, dans la conversation surtout, elle implique une comparaison. Le langage, c'est le monde de la comparaison. » La parole, c'est le monde de la comparaison. Il y a un moment où il faut se taire, où il faut sortir de la comparaison. Et il continue en disant, il est magnifique d'être vêtu comme le lys, il est encore plus glorieux d'être le souverain debout, mais la gloire suprême est de n'être rien en adorant. Adorer n'est pas dominer, cependant, c'est par l'adoration que l'homme ressemble à Dieu, et la faculté d'adorer en vérité constitue l'avantage de la gloire invisible sur toute la création. La ressemblance à Dieu n'est en vérité qu'au sein de l'infinie différence, et c'est pourquoi la faculté d'adorer